Chapitre 26. 18h30. Les mains regroupées sous le menton, Vigo Novak observait la masse écrasée sur le canapé. Avec une minutie d'horloger, il ressassait les lignes de son plan, analysait les étapes, les facteurs X susceptibles de compromettre son opération. La clé d'entrée dérobée chez Sylvain, dont il avait fait un double dans une grande surface. La boîte de Donormil, la paire de gants en latex, et l'incroyable somme de détails qui nécessiterait l'habileté d'un jongleur. Tout était parfait. L'engrenage réclamait sa crémaillère. Il alla au fond de son jardin s'assurer que son voisin, un veuf sexagénaire, avait abaissé ses volets roulants. Puis il rapprocha la voiture de Sylvain. De l'autre côté de la rue, pas de témoin possible. Les palissades de béton hautes de 2 mètres n'ont ni yeux ni oreilles. Dans l'après-midi, il avait appelé Nathalie, furieuse après son mari, à la suite de son départ précipité de la maison. Vigo l'avait prévenu que Sylvain déblatérait à ses côtés, une bouteille de whisky à la main et dans un état proche de celui d'un alambic hors d'usage. Et maintenant, l'ami allait ramener le mari indigne. Sylvain était horriblement lourd. Néanmoins, Vigo réussit à l'installer sur le siège passager du véhicule. Il enfila des gants de laine, un bonnet, mit le contact et s'évapora dans la nuit. Une alarme interne lui intimait de rebrousser chemin, de stopper le massacre, de réfléchir à des solutions alternatives. Mais cette voix égoïste lui demandait de choisir entre l'humidité d'un cachot et la douceur d'une vie sucrée. L'ingénieur touchait au but. Il manquait juste le coup de tournevis décisif. Il ne commettrait pas d'erreur. Être intelligent, c'est savoir utiliser son intelligence au bon moment. 2 kilomètres plus loin, il pénétra dans le U de la fermette isolée, verrouilla le portail et cogna du coude à la porte, soutenant un quintal par-dessous les aisselles. Nathalie, toute griffe dehors, lui lacéra le visage de réprimande. « Vigo, dans quel état tu me le ramènes ?» Elle s'en prit au baril d'éthanol. « Et toi, tu joues les pochards alors que ta femme et ta fille t'ont attendu toute l'après-midi. Regarde-moi ce crétin, on dirait la réincarnation d'un pub irlandais. » « Laisse tomber, il t'entend pas », grimaça Vigo en tirant vers l'intérieur le paquet de chair. « Il a liquidé ma bouteille de whisky. Aide-moi plutôt à l'amener sur son lit. Dis, tu n'attends personne, j'espère. Il faudrait pas qu'on le surprenne dans cet état. Qui veux-tu que j'attende à 7 heures? Tu me dois des explications. Le lit d'abord, les explications après. » Les bibelots, les tapis, toutes ces zones accrocheuses d'empreintes se liguaient en pièges potentiels. Vigo se sentit soudain vulnérable. Faible, prisonnier de sa chair, de l'usure de son corps. Et s'il perdait un cheveu, un poil, une pellicule à proximité des cadavres? S'il oubliait un détail crucial? Avec les technologies de la police scientifique, le moindre geste de travers pouvait être fatal. Ils allongèrent Sylvain, récupérèrent leur souffle, avant de se rendre dans la salle à manger, le pas traînant. Pense à la sueur, donner un coup de serpillière avant de partir. « Je crève de soif maintenant, » halta Vigo. « Je peux aller me servir un jus de fruits dans la cuisine ?» Nathalie se tamponna le front. « Dépêche-toi, j'attends. » « Qui as-tu prévenu du départ précipité de Sylvain en début d'après-midi ? Il faudrait leur dire que tout est rentré dans l'ordre. Personne ? Tu crois que j'expose mes problèmes familiaux au monde entier ?» Vigo jeta un œil au feu à charbon. Les briques de son stratagème s'empilaient à la perfection. Un ciment de démence solidarisait l'ensemble dans une mécanique inébranlable. Il reprit confiance et se présenta avec 2 grands verres remplis à ras-bord. « Tu peux encore tout arrêter. Tu peux encore tout arrêter. À quoi bon? S'il vit, tu es cuit. De toute façon, tu as déjà tué une fois. C'est passé comme une lettre à la poste, non? Tu connais désormais la procédure. » Des impulsions cérébrales lui ordonnèrent de tendre le bras. « Tiens, bois une goutte. Ton mari est un sacré morceau. » Elle refusa le verre. « Tu crois que j'ai soif? Vous me donnez plutôt envie de vomir. La seule fois où j'ai vu mon mari émécher de la sorte remonte à l'enterrement de sa vie de garçon. » Des larmes roulèrent lentement sur ses joues. « Il est bizarre. Ces derniers temps, on dirait qu'il n'est plus le même. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ?» Vigo serra les poings. Ses yeux cherchaient un point d'accroche, une bouée de sauvetage qui l'éloignerait du regard d'un futur cadavre. Il improvisa. Il a peur que tu l'abandonnes.
Mais c'est absurde!
S'offusqua Nathalie en remuant l'air d'un geste vif.
Comment il peut penser une chose pareille?
Priver un homme de son travail revient à le castrer. Il se sent impuissant et complètement inutile. Je connais trop bien Sylvain pour t'assurer qu'il ne supporte plus cette dépendance, que les longues journées passées à attendre le rang de marteau. Aujourd'hui, il a craqué. Qui pourrait lui en vouloir? Tu crois que c'est facile de pointer chez Fourien?
Non, bien sûr que non, admit Nathalie. Mais on se raconte toujours tout.
Vigo lui cueillit une larme du bout des doigts. Une larme qui lui fendit le cœur. Les secondes s'étiraient en heures. Ses paroles mielleuses coulaient de sa bouche.
Il faudra que tu lui parles, confia-t-il.
Aide-le davantage à traverser l'épreuve.
Mais c'est déjà...
Elle s'étouffa dans un sanglot. Vigo luttait contre ses anges intérieurs pour ne pas rebrousser chemin. En finir. Il attrapa le verre et lui glissa sur les lèvres. Bois une gorgée, ça ira mieux après. Nathalie obtempéra et ingurgita la mort. Voilà, murmura Vigo. Très bien. Doucement. Installe-toi dans le canapé. Nous allons discuter tranquillement.
Nathalie fut d'abord prise d'une impression de légèreté. Puis les paroles de Vigo s'éloignèrent. Des griffes puissantes l'entraînèrent dans un puits sans fond.
Vigo sentit sa poitrine se gonfler de sang. Ses tempes bourdonnaient. Il écouta le jet d'adrénaline se déverser en lui, affûter ses muscles, revigorer son esprit. Le plus difficile restait à faire, éviter les erreurs. Avec méthode, il enfila des gants en latex, un bonnet de laine, remonta son coupe-vent jusqu'au cou et ferma un à un les volets de la cuisine, de la salle à manger et des chambres. Il rabattait le couvercle d'un cercueil. La petite Héloïse, assise au fond de son parc, lui arracha un sursaut lorsqu'elle se mit à piailler. Elle agitait un hochet avec une innocence émouvante. La vie jaillissait de chacun de ses gestes, de ses regards. Vigo s'effondra en pleurs.
« Non, tu ne peux pas faire ça, impossible. Rentre chez toi. Pas une petite fille. Seigneur !»
Il fondit sur le vaisselier, empoigna une bouteille de vodka qu'il allégea d'une généreuse gorgée. Il connaissait par cœur les effets de l'alcool sur son organisme. D'abord l'impression de chaleur, puis les inhibitions. Ses émotions s'émousseraient sans pour autant lui ôter sa vigilance. Les vapeurs se dissipèrent en 5 minutes, les 5 minutes les plus longues de sa vie, réactivant le processus de mise à mort. Ligne suivante de son plan, les Donormil. Il glissa la boîte entamée de somnifères dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. On les délivrait sans ordonnance, une piste qui ne serait pas explorée.
Parfait. Parfait. Agis en cherchant à te piéger toi-même. Comme ça, tu ne commettras pas d'erreur.
Une avalanche de cris. Héloïse hurlait. Comment de si petits poumons pouvaient-ils cracher tant de puissance?
Bon sang. La sensibilité exacerbée des bébés. On dirait qu'elle le sent.
Vigo se jeta sur la bouteille de vodka. Il n'ingurgita qu'une dose minime, hors de question d'aller plus loin et de risquer l'émoussement neuronal. Sa vie dépendait de sa vigilance.
Pas un bébé, pas un bébé, pas un bébé.
L'implacable machinerie se mit à nouveau en branle dans sa tête. En avant-marche. L'agencement des corps à présent. Le nœud d'une scène de crime. Le reflet du visage d'un assassin imprudent. Répétait son frère. Il démaquilla Nathalie d'un coton imbibé de lait qui finit au fond d'une poubelle, la porta jusqu'au lit, lui ôta ses vêtements avant de la glisser dans un pyjama. La découvrir quasi nue ne lui provoqua aucun désir. Qui banderait devant de la viande aux 3/4 refroidie? Il répéta l'opération avec Sylvain. Les chaussures, le pull, la chemise, le pantalon, puis le caleçon. Il disposa les corps de manière naturelle, sur le côté pour Nathalie, jambes pliées, et sur le dos pour Sylvain, avant de les recouvrir du linceul de plumes. La faucheuse venait de rabattre sa capuche noire. Les cris à nouveau, ignobles hurlements. Il se précipita sur Héloïse, l'empoigna et l'enfonça au fond de son lit à barreaux, à la limite de lui fendre le crâne, de l'éclater comme l'enfant en colère contre son Big Jim.
Ferme ta gueule! Tu as presque fini le travail. Ne craque pas maintenant. Regarde, elle porte déjà son pyjama. Le destin est encore avec toi. Laisse couler.
Respiration dense, flot de sueur. Et si le téléphone sonnait? Et si quelqu'un frappait à la porte? Et si un passant l'avait vu pénétrer dans la cour? Il s'imprégna une dernière fois de l'atmosphère de la chambre parentale, scruta le moindre recoin, imagina l'attitude des policiers qui découvriraient les corps. N'avait-il rien oublié? Le couple en pyjama dans son lit, la femme démaquillée, les vêtements pliés sur les chaises. Ces hurlements affreux. Ultime ligne droite, décisive. Le clou de son stratagème. Le monoxyde de carbone. Un gaz inodore, invisible, sournois. Au baiser mortel. Le grisou des feux à charbon. 6 000 victimes par an. Des familles complètes. 3, 4, 5 enfants. L'horreur. Vigo s'approcha du monstre d'acier. Les boulets de charbon s'embrasaient sans aucun crépitement, avalaient les flammes pour régurgiter un magma incandescent. Les forges de l'enfer préparaient leur combustion d'âme. Le front ruisselant, Vigo tira avec précaution l'adhésif entouré autour du rouleau d'évacuation, juste assez pour qu'apparaisse la profonde déchirure. Ils étaient inconscients d'utiliser un feu en si mauvais état. Un tel malheur devait arriver tôt ou tard. On ne répare pas une bouche d'évacuation avec du scotch. Il se donnait bonne conscience. Oui, le drame les avait toujours guettés. Vigo déviait juste un peu les destins, comme avec son emballage de croissant sur les marches de la Grand Place. Il tira sur chaque extrémité du tuyau sans forcer, étala plus encore le sourire de la fente. Tout paraissait naturel. La panne de chaudière arrivait au mauvais moment, les températures effroyables de l'extérieur, contraignant à utiliser le feu à charbon. L'adhésif décollé par la chaleur, porteur des empreintes de Sylvain ou Nathalie. Et même la mère qui avait signalé le danger. Le poison inodore se déversait dans l'air. Dans quelques heures, le gaz aurait mordu les chambres. Tout serait fini dans les mauves de l'aube. Du plus profond de l'habitation, les hurlements de l'enfant redoublèrent d'intensité. Vigo se plaqua les paumes sur les oreilles, des plis douloureux sur les lèvres. Le long de la vitre embuée du feu à charbon, les flammèches louvoyaient avec acharnement, pressentant l'appel d'air, accélérant le processus de mort. « C'est le prix de ta survie. Tu n'avais pas le choix. » Sans tarder, Vigo rinça les deux verres de jus de fruits qu'il rangea dans le placard de la cuisine. Il donna un coup de serpillière sur le sol, ausculta une dernière fois les pièces, affrontant les hurlements désespérés. Il vacilla et manqua de vomir. « Pas un bébé, pas un bébé, pas un bébé. » Quitter l'endroit fut plus difficile que prévu. L'horrible impression d'avoir commis une erreur. Il posa la clé dérobée dans le coffret accroché à proximité de la porte, se faufila sur le perron et utilisa son double pour verrouiller l'issue. Sous l'œil incisif des étoiles, les champs au sol gelé l'engloutirent. Adieu, l'ami. Une fois chez lui, il faillit s'évanouir sur le canapé. Il se déshydrata à trop pleurer, demanda pardon à la divinité qui voudrait bien l'entendre. Le non-croyant qui prie quand ça l'arrange. Et aujourd'hui, ça l'arrangeait fichtrement. Comment retrouverait-il un jour la quiétude de son esprit? Pourquoi fallait-il payer par le biais pourpre ce droit d'accéder au bonheur? Pas loin de la rupture morale, il se changea et prit l'autoroute A21, destination nulle part. Demain, les pompiers découvriraient 3 nouvelles victimes intoxiquées au monoxyde de carbone. Avec un feu à charbon dans cet état et le témoignage de la mère, l'évidence éviterait la procédure judiciaire. Le lendemain de Noël, Vigo Novak se proclamait héritier légitime de 2 millions d'euros au détriment de 3 vies, dont un enfant à l'aube de l'existence.